une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, samedi 2 mai 2020, 7e semaine de confinement en France et 7e édition spéciale d'une semaine d'actualité. Édition spéciale au cours de laquelle il va davantage être question cette fois-ci de déconfinement dans le monde, en France notamment. Déconfinement très progressif, comme annoncé mardi à Paris, à l'Assemblée nationale, par le Premier ministre Édouard Philippe.
Nous devons protéger les Français sans immobiliser la France au point qu'elle s'effondrerait. C'est une ligne de crête délicate qu'il nous faut suivre. Vivre avec le virus, agir progressivement, adapter localement, voilà les trois principes de notre stratégie nationale.
Comme d'habitude, nous allons voyager dans le monde qui sort peu à peu du confinement grâce aux reportages de nos correspondants et en compagnie de nos invités. Depuis quelques semaines, dans ces émissions spéciales, nous vous offrons un double regard sur l'époque que nous vivons. Aujourd'hui, je vous propose celui de l'économiste et ancien ministre du Togo, Kako Nubukpo, et celui de Sandra Laugier, professeure de philosophie et philosophe elle-même. Vous pouvez vous abonner à une semaine d'actualité, vous le savez, un magazine que vous avez aussi la possibilité de retrouver sur votre plateforme de recherche préférée, sur le site de la radio, www.rfi.fr et l'application RFI Pure Radio.
RFI.
Avant d'écouter Kako Nubukpo, revenons sur le 60e anniversaire de la souveraineté du Togo, commémoré lundi dernier. Indépendance acquise en grande partie grâce aux femmes, y compris le jour du vote de cette indépendance sous l'égide de l'ONU. Reportage lundi à Lomé de Peter Sassou Dogbe.
Gertrude Yawa Ativi nous accueille sur sa terrasse au milieu de ses fleurs bien entretenues. En 1958, elle était à l'école primaire. Elle se souvient de ses chansons faites pour la lutte de l'indépendance. Elles seront à l'avant-garde de la lutte avec ruse et stratégie. Le jour de vote, le 27 avril 1958, les femmes étaient là. Gertrude Ayawa Ativi.
Le jour du vote, nos parents se sont organisés, surtout les femmes. Elles ont emporté des bassines dans lesquelles elles ont préparé la bouillie de boules de pâte. Chaque femme a mobilisé ses filles pour les porter aux agents des bureaux de vote. À cette époque, on ne payait pas les agents des bureaux de vote et ça a été une contribution des femmes.
Les femmes togolaises finançaient les envois de missions aux Nations Unies pour remettre des pétitions. Tetevi Godwin Tete, fonctionnaire international à la retraite, auteur de l'histoire du Togo, la palpitante quête de la blondie.
Non seulement financièrement, en termes d'organisation, en termes de propagande, c'est elle qui distribuait, elle mettait les tracts dans leurs culottes et elles allaient distribuer.
Elles sont très nombreuses, ces femmes, combattantes, intrépides et volontaires, dont l'histoire retient des anonymes, mais aussi des noms connus comme Bayi Ablodé, Anan, Ernestine, Agbensi, Davi Enike, Dapé et autres Atakbameto. La dernière a quitté le monde des vivants il y a quelques semaines, à l'âge de 101 ans.
Bonjour Kako Nubukpo.
Bonjour.
Vous êtes économiste, spécialiste de macroéconomie, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Lomé. Vous êtes ancien ministre et vous avez écrit « L'urgence africaine, changeons de modèle de croissance » chez Odile Jacob. Alors nous parlions à l'instant de l'indépendance, du vote de 1958. Que de chemin parcouru depuis ?
Oui, tout à fait. Et je tiens à saluer le rôle des femmes togolaises. Il y a eu la fameuse révolte de janvier 1933 qui finalement aura servi de répétition générale pour les événements de 1958. Parce qu'on a vu les coalitions se dessiner en 1933, des coalitions qui vont se renforcer au moment du référendum de 1958. Et qui permettra au comité de l'unité togolaise de Sylvanus Olympio, avec ses alliés de la Juventus, de gagner finalement le droit de dire que nous sommes un pays indépendant.
Un pays indépendant veut dire un pays souverain dans tous ses aspects, y compris, et là on rejoint votre spécialité, Kako Nubukpo, y compris sur le plan monétaire.
Oui, tout à fait. Comme vous savez, Sylvanus Olympio voulait créer la monnaie togolaise. Et donc, il a demandé aux Nations Unies, donc un fonctionnaire, Jean Denisé, de produire un rapport sur la viabilité d'une monnaie togolaise. Et avec la lecture de ce rapport et sa formation d'économiste, hein, n'oublions pas qu'il est diplômé de la London School of Economics, Il a mis tout de suite, dès l'indépendance du 27 avril 1960, la machine en route pour sortir plus progressivement du système CFA. Malheureusement, le coup d'État du 13 janvier 1963 va interrompre un processus qui était bien enclenché, puisque le 12 décembre 1962 était créée officiellement la Banque centrale du Togo et la monnaie togolaise. C'est quelque chose qui restera un peu comme une triste date dans l'histoire du Togo.
Kako Nubukpo, nous allons beaucoup parler dans cette émission de l'Afrique et de la situation de la dette africaine, par exemple. J'annonce tout de suite à nos auditeurs que nous en reparlerons dans un numéro spécial d'idées dans 8 jours. Pas demain, mais dimanche en 8. Le 11 mai, nous ferons une édition spéciale d'idées autour de l'Afrique demain, après cette crise du Covid, et nous reparlerons de cette question de la dette, notamment. Quel regard portez-vous, avant que nous parlions de la dette, Kako Nubukpo, sur la période que nous vivons, cette période de confinement qui s'achève peu à peu pour au profit d'un déconfinement qui s'annonce peut-être presque aussi long, voire plus long?
Oui, moi je pense que c'est une crise qui nous ramène finalement à la vulnérabilité de notre statut d'humain et donc qui nous oblige à être humbles, parce que personne n'aurait imaginé il y a quelques mois que la planète entière serait mise à l'arrêt à cause d'un virus. Après, ce qui se passe, c'est que les réponses sont différenciées suivant les continents, suivant les niveaux de richesse et suivant les différentes géographies. Mais ce qui est sûr, c'est que personne à l'heure actuelle ne peut dire exactement l'ampleur de ce qui va se passer, même après la pandémie.
Est-ce que c'est une période dont on peut dire qu'il y aura un avant et un après? On parle beaucoup de cet avant et de cet après. C'est au cœur de toutes les conversations, quels que soient les aspects de cette crise. Vous y croyez, vous, à cet avant et à cet après?
Oui, il y aura un avant et un après pour une raison simple. C'est que ces 30 dernières années, le néolibéralisme triomphant nous avait expliqué que l'État ne pouvait pas être en première ligne dans la gestion de l'économie et que les marchés étaient efficients. Et là, que voit-on? Un appel au secours. Les États sont en première ligne et on déverse des sommes colossales pour sauver l'économie monde. Et on se rend compte qu'on n'a rien fait pour les milliers de migrants africains qui meurent chaque jour dans les océans de la planète. Et donc, on voit finalement qu'il y a beaucoup de cynisme dans les relations internationales et qu'il y a les moyens pour tout le monde de pouvoir survivre si on voulait être un peu plus solidaire. Et donc, je pense qu'il y aura un avant et un après.
Vous parlez, Kako Nubukpo, d'une économie politique, de la compassion internationale. Cette phrase m'a frappé dans les nombreux articles que vous avez écrits depuis plusieurs semaines, de la compassion internationale.
Oui, parce que dans les mesures qui sont prises à l'heure actuelle, vous voyez bien que on interdit la circulation des personnes, mais on n'interdit pas la circulation des biens. Mais pourquoi ça? C'est parce que le reste du monde a besoin des matières premières africaines. Et donc, il faut quand même que l'économie mondiale tourne grâce aux matières premières africaines, mais il ne faut pas que les gens circulent parce que cette pandémie va donner l'opportunité à l'Europe, me semble-t-il, de fermer définitivement ses frontières, parce qu'il y a, n'oublions pas, cette phobie irraisonnée d'une immigration massive. Et donc, je tiens à dire que on ne peut pas assigner des continents entiers à résidence. Ce n'est pas possible. Et le discours sur la compassion africaine, c'est un discours qui permet de déculpabiliser l'Occident vis-à-vis de ses responsabilités historiques vis-à-vis de l'Afrique.
Une semaine d'actualité.
Kako Nubukpo, continuons à parcourir une partie du monde au temps du confinement et d'un lent déconfinement donc. À Moscou, où enfermés chez eux, les opposants veulent quand même se faire entendre et pas seulement le 1er mai. Correspondance mercredi de Daniel Valo.
Sur l'écran, le premier intervenant apparaît, mais le son ne fonctionne pas. Il faudra près d'un quart d'heure pour régler les problèmes techniques et pour que débute la manifestation diffusée sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Installé dans son salon, Dmitri Goudkov, ancien député privé d'élection à Moscou l'été dernier, réclame une indemnité financière pour tous les Russes qui ont perdu leur travail à cause du coronavirus. Aujourd'hui, le monde entier agit de cette manière. Les États-Unis, les pays européens dépensent des centaines de millions de dollars pour aider leurs concitoyens. Et en Russie, c'est l'inverse. Malgré des réserves financières colossales, le pouvoir laisse tomber les gens au lieu de les aider. À gauche de l'écran, les intervenants prennent la parole à tour de rôle. À droite, ce sont les messages de soutien et les slogans qui défilent. Une nouvelle façon de manifester, devenue indispensable aux yeux de Tatiana Ousmanova, membre du mouvement d'opposition Open Russia.
À cause du confinement, c'est la seule façon de rassembler les gens. Les citoyens de notre pays doivent pouvoir s'exprimer et écouter des personnalités qui ne sont pas d'accord avec les autorités.
Pour Tatiana Ousmanova, il est peu probable que les autorités russes autorisent les rassemblements dans les mois qui viennent, même, nous dit-elle, lorsque les mesures de confinement seront levées. Malgré des débuts techniques plutôt laborieux, ce nouveau type de mobilisation virtuelle a donc peut-être de beaux jours devant lui.
En Espagne, un des pays les plus touchés par l'épidémie de Covid-19, on le sait, la reprise du travail est à l'ordre du jour désormais. Reportage de David Bachet à la frontière entre la France et ce pays, à Hendaye précisément.
Depuis dimanche dernier, les Espagnols de moins de 14 ans peuvent enfin sortir de chez eux, avec un seul parent et pour une heure maximum. Samedi prochain, les adultes pourront à nouveau sortir faire du sport. Benito habite la ville espagnole de Vera.
Pour le moment, on ne peut pas sortir. À partir de la semaine prochaine, oui. Pour les petits et tout ça, ils commencent à marcher un peu. Mais on ne peut pas se déplacer de la maison ni rien. Donc c'est un peu plus strict.
La semaine prochaine, les terrasses des restaurants et les musées pourront rouvrir. Dans 2 semaines et demie, ce sera autour des commerces et des cinémas, mais avec des capacités réduites. Victor est chauffeur de camion, il vient de Barcelone. Maria est pharmacienne dans la ville espagnole d'Irun. Pour eux, tout va trop vite.
Ils se précipitent, ça va avoir des conséquences, ils devraient ralentir. Imaginez que ça recommence encore plus fort.
Je pense qu'ils veulent le faire, à mon avis, trop rapidement. Parce qu'en 15 jours, maintenant, nous sommes tous confinés à la maison et ils veulent rouvrir les restaurants, les bars. Ils veulent le retourner à la vie normale, en un mois au moins. C'est trop rapide.
C'est quoi le risque ?
Remonter le nombre d'infectés.
Le déconfinement espagnol doit s'étaler sur les 6 à 8 prochaines semaines.
Kako Nubukpo, continuons notre voyage dans le monde en voie de déconfinement en nous rendant cette fois à Dubaï où, et c'est tout un symbole, un gigantesque centre commercial rouvre peu à peu ses portes. Reportage de Nicolas Quérodrin.
Dans le célèbre Dubai Mall, le plus important centre commercial de l'Émirat, l'ambiance est fantomatique. Seule une poignée de clients déambule en effet dans des allées désertes. Après plus d'un mois de fermeture liée à l'épidémie de coronavirus, l'attraction touristique a de nouveau ouvert ses portes hier, mais sa fréquentation reste limitée à 30% de sa capacité. Nicole, une ressortissante russe de l'Émirat, se dit toutefois ravie de cette décision.
Oui, je suis vraiment heureuse de cette décision, car maintenant nous pouvons sortir de chez nous. Nous pouvons de nouveau nous sociabiliser. Pendant cette période, il est difficile pour nous de rester à la maison, surtout quand vous êtes jeune.
La réouverture totale et complète du Dubai Mall ne devrait pas se faire avant plusieurs semaines, car aux Émirats Arabes Unis, le nombre de nouveaux cas positifs au Covid-19 est en constante progression tous les jours. Alors pour limiter les risques de contamination et aussi rassurer les clients, de nombreuses mesures ont été prises dans le centre commercial.
Le centre commercial est peu fréquenté à l'heure actuelle, donc oui, je me sens en sécurité ici. Et en plus, ils vérifient notre température lorsque nous rentrons à l'intérieur. Tout le monde porte le masque. Donc oui, je me sens rassurée.
Par ailleurs, l'entrée des enfants de 3 à 12 ans, comme celle des personnes âgées de plus de 60 ans, est toujours interdite.
Enfin, partons pour les États-Unis où la Fed, la Réserve fédérale, s'inquiète face à la dégradation profonde de l'économie américaine pendant cette crise sanitaire qui annonce probablement une crise économique et financière à Washington jeudi. Anne Corpé.
En 5 semaines, plus de 26 millions d'Américains se sont inscrits au chômage et ce chiffre va encore augmenter avec la parution de nouvelles statistiques ce jeudi. L'activité économique du pays est quasiment à l'arrêt et même si une quinzaine d'États commencent à lever progressivement les mesures de confinement, le président de la Fed prévient « le plongeon de l'économie n'est pas terminé ». Jérôme Powell.
L'activité économique va probablement chuter à un rythme sans précédent au deuxième trimestre. L'ampleur et la durée du ralentissement économique sont extraordinairement incertains et dépendront en grande partie de la rapidité avec laquelle le virus sera maîtrisé.
La Banque centrale a décidé de maintenir les taux d'intérêt autour de 0% pour tenter de rassurer les marchés. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider les familles américaines et les entreprises en ces temps difficiles. Difficile à souligner le patron de la Fed avant d'expliquer qu'il fallait utiliser toute la puissance budgétaire américaine sans pour le moment se préoccuper des déficits.
L'actualité internationale, c'est aussi l'adoption d'un plan de réforme économique au Liban sur fond de reprise de la contestation et les propos de Donald Trump qui a accusé cette semaine la Chine d'avoir propagé le virus, entre autres, pour affaiblir les États-Unis et favoriser son challenger démocrate Joe Biden. Kakonubukpo, que penser de la situation économique dangereuse des États-Unis ? Anne Corpé le disait, ce jeudi, de nouveaux millions de chômeurs ont été annoncés. Ils s'ajoutent à cette longue liste d'Américains au chômage. Comment voyez-vous cette situation, vous, l'économiste ?
Oui, c'est très inquiétant parce que nous avons une addition de chocs. C'est-à-dire qu'on a un choc d'offres qui fait qu'il y a une désorganisation des chaînes d'approvisionnement. On se rend compte à la faveur de cette crise que nous dépendons beaucoup de la Chine et comme ça a été le foyer originel de l'épidémie, il y a une désorganisation de la chaîne logistique chinoise et les impacts sont toujours présents. Mais on a aussi un choc de demande, la chute des revenus des ménages qui ne peuvent plus aller travailler. Et donc, quand vous avez un double choc de cette nature, vous avez une déflation, donc une baisse du niveau général des prix. Et en temps normal, c'est une aubaine pour une politique monétaire expansionniste. Et donc, il faut créer de la liquidité. Le problème, c'est que les taux d'intérêt américains sont déjà quasiment zéro. Ce que nous, on appelle en économie la trappe à liquidité. Donc, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre sur la politique monétaire. Et là, il faut se retourner vers la politique budgétaire. Ce qui fait qu'on doit répondre à la crise, finalement, avec un seul instrument, le budget. Et c'est pour ça que l'inquiétude est très grande. On n'était pas dans la même situation en 2008, au moment de la crise des subprimes. Là, nous avons une crise économique doublée d'une crise sanitaire et ce n'est vraiment pas la sortie de l'auberge. Là.
Kako Nubukpo, je voulais que nous écoutions ce reportage réalisé à Dubaï qui symbolise peut-être le débat autour de l'après-épidémie avec le retour ou pas de la consommation, voire de l'hyper-consommation. Je rappelle qu'il s'agissait d'un reportage dans un centre commercial géant. Est-ce qu'il y aura au moins dans les pays riches, selon vous, la reprise des habitudes d'avant ou est-ce que cette crise va changer l'attitude des consommateurs dans les pays occidentaux pour parler généralement ?
Oui, moi je pense que il y a une méfiance qui naît puisque l'autre peut être le porteur du virus. Et du coup, ce sur quoi est fondé notre vivre ensemble est fondamentalement remis en question. Au-delà de ça, on voit bien que des pays qui se sont vite développés dans une forme de superficialité, comme Dubaï, ben avec cette façon finalement d'adorer le veau d'or, ces pays se retrouvent aujourd'hui aux prises avec une chute du tourisme. Donc, moi, je crois vraiment que demain, le monde d'après, ça va être un monde où les circuits courts vont être de nouveau privilégiés, donc une économie de proximité, mais aussi des formes de sociabilité à redéfinir. Et là, je crois que l'intelligence artificielle, on voit déjà beaucoup de visioconférences. Donc les trois unités, l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action, qui sont les trépieds finalement du modèle taylorien fordiste, hein, avec lequel nous avons fonctionné durant toute la seconde moitié du XXe siècle, ben, ces trois unités sont en train d'être remises en cause par cette crise qui est quand même d'une ampleur et d'une violence sans précédent.
Sept jours en France.
Arrêtons-nous en effet un instant en France, Kakou Bukpo, pour revenir sur ce qui va se passer à partir du 11 mai prochain, lors du début du déconfinement. Édouard Philippe, que l'on a entendu brièvement au tout début de l'émission, on a dit plus, un peu plus, mardi à la tribune de l'Assemblée nationale, Julien Chavanne.
La douche froide est tombée une trentaine de minutes après le début de son discours. Édouard Philippe prévient, si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai. Concrètement, si le nombre de nouveaux cas dépasse les 3000 par jour à l'approche du 11 mai, eh bien le déconfinement sera tout simplement reporté. Car ce plan du gouvernement n'était en réalité qu'une première version appelée à être corrigée, adaptée. Toutes les trois semaines, l'exécutif fera un point sur la situation et changera de dispositif si nécessaire. Le cadre général est posé, la méthodologie fixée. La suite, c'est aux élus locaux de la décliner sur le terrain. Édouard Philippe a d'ailleurs rendez-vous ce mercredi avec les associations de maires et les préfets. Le Premier ministre, très exposé dans cette crise, fragilisé au sein même de son propre camp. Les rumeurs sur un prochain remaniement post-crise alimentent la presse et les conversations. Emmanuel Macron a lui-même désavoué auprès de journalistes son chef de gouvernement sur le maintien du vote du plan de déconfinement à l'Assemblée ce mardi. Le chef de l'État a démenti, mais jamais les tensions entre l'Élysée et Matignon n'avaient été aussi visibles.
Un court débat a suivi ce discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale, Anne Souhaitemont.
Nous voici rendus après une gestion calamiteuse, à une sortie hasardeuse.
Parmi les premiers à prendre la parole juste après le Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon n'a pas mâché ses mots. Pour les insoumis, c'est non au plan de déconfinement.
Ordre et contre-ordre se sont succédés. Tant et si bien que c'est briser le ressort fondamental de la lutte, la confiance. Car en démocratie, il n'y a pas de consentement à l'autorité sans confiance dans la légitimité des consignes qui sont données.
À droite, c'est l'abstention qui l'a emporté, mais avec la même justification. Pas de blanc-seing à un plan difficilement applicable par un gouvernement qui a perdu toute crédibilité sur les masques ou sur les tests, selon le chef de file des députés LR, Damien Abad.
Les injonctions contradictoires permanentes brouillent totalement le message et rend difficilement applicable la stratégie de déconfinement.
Un déconfinement menacé faute de confiance dans le gouvernement, un avis partagé par le numéro 1 des socialistes, Olivier Faure, qui a voté contre le plan.
En cette crise, le gouvernement a raté son rendez-vous avec le pays, comme depuis 3 ans, le président fait seul.
Le Rassemblement national de Marine Le Pen, qui accuse le gouvernement de mensonge depuis le tout début de cette crise, a lui aussi voté contre.
Alors comment se déplacer en sécurité dans les transports en commun à partir du 11 mai prochain ? À cette question, personne n'a encore trouvé de réponse convaincante et les voyageurs sont inquiets. Écoutez par exemple ce reportage dans le métro parisien de Simon Rosé.
Alerte coronavirus, pour tenir la même distance.
C'est une annonce à laquelle certains se sont habitués.
Bah, je prends la ligne 13 tous les jours, tous les matins, tous les jours, oui. Et puis bon, on met les masques.
Depuis le début du confinement, cette dame utilise le métro, la ligne 13 du réseau parisien, la plus bondée en temps normal. Depuis le 16 mars, la fréquentation a certes bien diminué, mais elle reste importante, comme ce matin. La rame est remplie, au grand regret de ceux qui n'ont pas d'autre choix.
Les distances de sécurité ne sont plus du tout respectées, bien sûr que non. Voilà. Et puis, même sur les surfaces, tout, on tient les barres.
Dans ces conditions, certains craignent un afflux de voyageurs à partir du 11 mai avec la levée du confinement.
Ça m'angoisse parce qu'il n'y a pas de mesures de sécurité, puisqu'on est serrés les uns les autres. Et ça me met en colère parce que on est obligé d'aller travailler et on va travailler dans ces conditions.
L'exécutif a cependant annoncé que les règles de distanciation sociale seront maintenues dans les transports en commun le 11 mai. Mais il faudra concilier cela avec l'objectif de monter en puissance du réseau parisien. Il fonctionne à un quart de ses capacités aujourd'hui. Le but est d'atteindre 70% dans 10 jours.
Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Kakonu Bukpo, avec lequel nous commentons l'actualité de cette semaine. Difficile d'être dirigeant d'un pays en cette période, Kakonu Bukpo.
Oui, très difficile, parce qu'on voit quand même que on est dans un processus d'essai-erreur, donc un processus d'apprentissage par la pratique. Or, vous connaissez l'adage, gouverner, c'est prévoir. Et donc, ce qui est quand même assez finalement remarquable, c'est que le nouveau monde qu'on nous a présenté, donc la Macronie, semble finalement plus adapté pour l'ancien monde que pour les nouvelles crises. Et donc, il va falloir inventer de nouvelles formes de gouvernance. Et ce que j'observe aussi finalement, c'est que le débat de la fin du 19e siècle autour du scientisme, hein, l'avenir de la science d'Ernest Renan, il revient parce que le politique finalement se cache derrière le scientifique pour gouverner. On n'a jamais autant vu de scientifiques prendre la parole dans l'espace public pour nous expliquer ce que nous devrions faire. Or, la légitimité, elle n'est pas conférée aux scientifiques par le peuple, elle est conférée aux politiques. Et donc là également, il y a un travail à faire pour remettre les choses à l'endroit. Et dernier point, on observe quand même une forme de provincialisation de l'Europe, parce que je rappelle quand même qu'il y a plus de masques aujourd'hui au Maroc qu'en France, et que les Chinois ont dû intervenir en Italie, les médecins chinois. Et donc, je crois que dans cette forme de multilatéralisme qui se remet en place, tout le monde devrait faire attention et sortir un peu de la posture, finalement, de la normativité arbitraire qui a toujours été la posture occidentale.
Alors hier, Kakonu Bukpo, c'était le 1er mai, vendredi 1er mai, il y a eu des manifestations sur les balcons, où il y a eu beaucoup de manifestations virtuelles sur Internet. Il y a eu aussi un message du président Macron pour saluer les syndicats. Emmanuel Macron, qui sur notre antenne, il y a quelques semaines, vous l'avez écouté, proposait un moratoire de la dette africaine. Le pape François, quelques jours auparavant, à Pâques, avait demandé l'annulation de la dette des pays les plus pauvres. Et là, on est au cœur d'une réflexion que vous menez depuis longtemps, y compris dans votre dernier livre, L'urgence africaine, Kakonu Bukpo. Vous, vous dites, et on en reparlera encore une fois dans Idée dans quelques jours, la semaine prochaine, le 10 mai prochain, vous vous dites que il faut que la dette des pays africains soit réglée. Je rappelle qu'elle est de quelques 365 milliards pour l'Afrique subsaharienne, dont 145 dus à la Chine.
Oui, ce que je dis simplement, c'est deux choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apporter une réponse conjoncturelle à une question structurelle. Pourquoi les dettes africaines sont-elles récurrentes? C'est parce que notre base productive est étroite. C'est parce que notre demande qui est forte, et c'est normal parce qu'on a une démographie très active, très dynamique, cette demande n'est absolument pas assurée par l'offre africaine. Et donc, nous importons massivement les biens et services, et quand nos États dépensent, ben finalement, ça crée des déficits budgétaires qui deviennent des dettes. Et donc, penser que les processus d'annulation de la dette vont régler le problème africain, c'est ne pas comprendre ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est la capacité de l'Afrique à augmenter justement sa base productive. C'est ce qui va créer les emplois. Les emplois vont créer les revenus. Les revenus vont créer les impôts. Et les impôts vont permettre d'avoir un espace fiscal beaucoup plus élargi. Et au-delà de ça, la génération à laquelle j'appartiens est mal à l'aise de voir ses dirigeants supplier le reste du monde pour effacer la dette. C'est ce que j'appelle la servitude volontaire. Vous savez, nous avons des instruments de souveraineté économique, que sont la monnaie et le budget. On s'est interdit, et ça a été le cœur de mon combat depuis 15 ans, d'utiliser l'arme monétaire pour faire du crédit productif, pour augmenter nos capacités de production, pour faire face à des pandémies comme celles auxquelles nous avons affaire aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous voyez, les mêmes responsables font le tour du monde pour quémander de l'aide internationale. Et donc, ma génération ne peut pas accepter que nous restions dans la servitude volontaire. Je pense que la reconquête des instruments de notre souveraineté économique, budget et monnaie, est la condition sine qua non du développement d'Afrique.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Continuez à nous écrire à cette adresse et à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Un salut donc à quelques-uns de nos auditeurs fidèles en Afrique. Bonjour aujourd'hui à Johnny à Kinshasa, la capitale bien sûr de la RDC, à Armand à Abomey-Calavi au Bénin. Bonjour à Michel, le bonjour à Mamadou à Conakry, à Joris à Ouagadougou, à Ferdinand à Garoua au Cameroun. Et je salue également Moussa à Casablanca, Blondie à Dakar et Gracia Roberto à Yaoundé.
7 jours en Afrique.
Partons pour le continent que nous aimons tous, Kakonubukpo, en Côte d'Ivoire d'abord, pour revenir sur la condamnation de Guillaume Soro, candidat à la prochaine élection présidentielle, correspondance de Pierre Pinto, mercredi.
En 3 heures d'audience, le sort de Guillaume Soro était scellé. Le tribunal a donc suivi les réquisitions du procureur Richard Adou, 20 ans de prison, 4,5 milliards de francs CFA d'amende et 5 ans de privation de droits civiques. Guillaume Soro écope aussi de 2 milliards de francs CFA de dommages et intérêts à verser à l'État. Un nouveau mandat d'arrêt a été mis à son encontre. Quant à la luxueuse maison du quartier abidjanais de Marcory résidentiel, elle est confisquée. C'est cette résidence qui est au cœur du dossier. Une maison achetée via une société civile immobilière en 2007 par Guillaume Soro avec, selon le procureur, 1,5 milliard de francs CFA en chèque du Trésor public et qui n'a jamais été restitué à l'État. Cette maison a été offerte par le président Laurent Gbagbo via une décision présidentielle qui a été exécutée par un consortium de ministres, rétorque le directeur de la communication de Guillaume Soro, Moussa Touré. Il faut dire que personne n'était là pour apporter la contradiction au réquisitoire du procureur puisque les avocats de la défense avaient boycotté l'audience. Ils invoquaient la décision de la Cour africaine des droits de l'homme rendue la semaine dernière qui, dans son argumentaire, estimait, je cite, « nécessaire d'observer le statu quo ante ». Pour les avocats de Guillaume Soro, toutes les procédures à son encontre auraient donc dû être gelées.
Revenons à l'Afrique face au virus. Dans chaque pays, les plus pauvres souffrent davantage en cette période. Écoutez ce reportage de Charlotte Hydrac sur la distribution de nourriture à Dakar.
Chargement d'une brouette dans l'arrière-cour d'une école commune de Guinaoraï Sud. Fatou Niang repartira avec 100 kilos de riz, des pâtes, 10 litres d'huile, du sucre et du savon. Un kit d'une valeur de 66 000 francs CFA, environ 100 euros. Une bouffée d'oxygène pour cette mère de 6 enfants. Mon mari ne travaille plus à cause de la maladie, dit-elle. Il faisait du petit commerce de bois. Avec ça, on peut tenir plus d'un mois et demi. Établir la liste des bénéficiaires n'a pas été une tâche facile, selon le ministre du Développement communautaire, Mansour Faye. La majorité des ménages vulnérables étaient déjà recensés par l'administration. D'autres ont été identifiés par des comités de quartier et la municipalité. La distribution est surveillée par des vérificateurs du ministère, comme Amadou Fall.
Quand le bénéficiaire est là, c'est au vérificateur de vérifier si son nom figure sur les listes. On l'accompagne jusqu'à la sortie pour s'assurer qu'il a reçu tout le kit alimentaire promis.
À la sortie, justement, Radiga y estime que le processus n'est pas très clair. Sa famille est inscrite pourtant au registre des ménages vulnérables.
On ne comprend rien, rien du tout. On vient de l'entendre tout de suite qu'on devait prendre des tickets. À cause du Covid-19, n'est-ce pas? On a besoin de céleri.
La distribution ne fait que commencer. Les opérations devraient durer une dizaine de jours sur tout le territoire.
Il nous reste quelques minutes pour conclure cette émission. Kakonubukpo, on notera la différence de traitement face à cette crise sanitaire selon que l'on est riche ou pauvre. Difficile de protéger une population aussi hétérogène que les populations que connaissent certains pays africains. Et d'ailleurs, ça vaut aussi pour l'Occident.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en Afrique, on n'a pas encore l'état social, on n'a pas encore les filets de protection économique et sociale, on n'a pas ce qu'on appelle les stabilisateurs économiques automatiques. Et donc, on est vraiment au cœur finalement du défi, soit laisser les gens sortir, vaquer à leurs occupations avec le risque qu'ils contractent le virus et peut-être la maladie, soit les confiner, mais à ce moment-là, il faut qu'on continue les efforts pour pouvoir aider à leur approvisionnement quotidien. Parce que, comme vous le savez, quasiment 80% de la population est dans le secteur informel. Elle n'a pas d'épargne préalable et elle n'a pas de stock. Donc, elle a besoin au quotidien de pouvoir se ravitailler. Et c'est pour ça que nous devrions tirer la leçon de ce qui se passe actuellement pour construire de vraies politiques publiques en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de formation, en matière agricole, pour que nous ne soyons pas, comme c'est le cas aujourd'hui, dans ce que j'appelle la dictature des urgences.
Oui, parce que ça sera ma dernière question, Kako Nubukpo. Cette crise terrible que nous connaissons tous à des degrés divers, peut-être une chance, c'est dur à dire, mais j'emploie quand même le mot pour l'Afrique, dans le futur, pour l'avenir.
Oui, parce que l'Afrique peut se réinventer. L'Afrique peut utiliser les ressorts de sa résilience, sa pharmacopée, la jeunesse de sa population, ses qualités intrinsèques, ses valeurs, ses traditions, la solidarité pour faire face au virus. Il faut que nous sortions de cette extraversion intellectuelle qui finalement dicte l'agenda de nos gouvernants. Et donc c'est quelque part une chance, même si le terme est fort, peut-être plus une opportunité pour construire ce que j'appelle l'Afrique d'après. Espérons, et c'est biblique, hein, qu'à brebis tondue, Dieu mesurera le vent.
Merci Kako Nubukpo, vous avez donc écrit « L'urgence africaine, changeons de modèle de croissance », un livre que je recommande, il est publié chez Odile Jacob. Et donc nous nous retrouverons avec d'autres invités dans un numéro spécial d'Idées, dimanche 10 mai, pour un numéro consacré à l'Afrique demain, à l'Afrique après cette épidémie de coronavirus. Cela s'annonce passionnant. Rendez-vous donc dans 8 jours. Merci Kako Nubukpo.
Merci à vous.
Et à bientôt.
Merci, au revoir.
Je vous propose de retrouver maintenant notre seconde invité dans ce magazine, comme nous le faisons depuis plusieurs semaines maintenant dans ces émissions spéciales. Bonjour Sandra Laugier.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur de philosophie, vous vous intéressez à la philosophie du langage, au féminisme, à la démocratie et à la notion de care, de souci des autres. Ce sont quelques-unes de vos spécialités, de vos sujets d'études, et je n'oublie pas non plus l'étude que vous venez de publier sur les séries de votre livre, publié chez Flammarion, qui s'intitule « Nos vies en série ». Nous en reparlerons d'ailleurs dans le magazine Idées demain. Quel regard portez-vous, Sandra Laugier, vous qui observez la société dans tous ses détails, quel regard portez-vous sur ces semaines de confinement que nous venons de vivre et que nous vivons toujours, et de cette perspective annoncée d'un déconfinement très progressif?
Alors, bien entendu, ce que j'observe depuis le début, là, plutôt en tant qu'observatrice des questions morales, hein, et des comportements, des changements finalement dans les idées aussi des personnes, je crois que ce qui a été un bouleversement, à mon avis, important, c'est la tension nouvelle qu'ont apporté tous les citoyens, donc confinés ou pas, à toutes les personnes chez nous, dans la population, donc qui nous aident, qui assurent le travail de care. Hein. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui a été très très largement remarqué, hein, le fait qu'il y ait un regard nouveau qui soit porté sur un ensemble de professions qui étaient relativement défavorisées, même invisibles, hein, comme on le dit beaucoup, et dont on s'aperçoit à quel point elles sont indispensables à la vie du pays et à la nôtre individuellement. Et pour moi qui ai travaillé depuis très longtemps sur l'éthique du care, alors le care c'est un mot en anglais, ce qui fait qu'on ne l'aime pas beaucoup, il a été beaucoup critiqué d'ailleurs lorsqu'on a essayé de l'introduire, donc le care, le souci des autres, et bien on s'aperçoit que ce travail de care, il est très important d'abord en tant que care soignant, hein, et c'est ça le premier sens, hein, de care, hein, c'est vraiment le soin au sens médical, hein, qui est apparu comme complètement essentiel, mais aussi le care au sens de toutes les professions des personnes donc qui s'occupent de nous, que ce soit les caissières, les éboueurs, les livreurs, etc. Donc ça a mis au jour, hein, et c'est une vraie prise de conscience, un changement dans la perception, hein, ça a mis au jour tout un ensemble d'activités, de professions que d'habitude on néglige. Et au plan philosophique, je crois que c'est vraiment une sorte de changement d'échelle, en fait, dans les valeurs, dans ce qui est important, dans les professions qui sont utiles, indispensables. Avant, on met toujours en avant, dans les professions importantes, eh bien, les décideurs, les personnes qui sont vraiment en haut de l'échelle sociale. Et là, tout d'un coup, on se met à voir l'importance de tout un ensemble de professions que d'habitude on met tout en bas. Et je ne sais pas si ça va durer, bien entendu, hein, puisque personne ne peut parler de l'avenir en ce moment, mais ce renversement des valeurs, ou plutôt la disparition de cette inversion des valeurs habituelles qu'on subit, je crois qu'elle est extrêmement importante. Donc ça, c'est vraiment le premier point que je peux mentionner vraiment au plan de la philosophie et de la philosophie morale, hein, puisque c'est vraiment un cas où les questions morales vont être directement visibles sur le terrain et dans la vie quotidienne.
Sur le plan de la morale également, Sandra Laugier, même de la métaphysique presque, il y a un mot qu'on a beaucoup entendu ces dernières semaines, c'est le mot « humilité ». Cette crise, cette épidémie, cette pandémie, ce virus nous rappelle notre vulnérabilité également.
Je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'il y a une forme d'humilité généralisée qui est même d'ailleurs parvenue à toucher les discours des dirigeants qui, au début de la crise, tout le monde s'en souvient, étaient quand même extrêmement dominants et martiaux, et qui, petit à petit, ont en effet intégré cette dose à la fois donc d'humilité, d'ignorance, etc. Et ce qui est la raison de cette humilité, c'est tout simplement la prise en compte donc générale de la vulnérabilité. C'est-à-dire que d'habitude, on parle de vulnérabilité, c'était pas du tout un mot absent, mais qu'est-ce que c'était la vulnérabilité? C'est un ensemble de populations qu'on va considérer comme vulnérables, que ce soit les malades, les personnes extrêmement âgées ou au contraire des personnes très défavorisées dans des zones particulières. Et donc ça reste vrai pour les personnes âgées qui restent très très vulnérables aux atteintes de la maladie en tant que telle, ça reste vrai bien sûr des malades, mais ce qui est clair, c'est que en réalité tout le monde est vulnérable, hein. Chaque personne, d'abord on l'a vu au début de la maladie, c'était frappant de voir que beaucoup de gens étaient frappés, y compris des personnes puissante au pouvoir ou connue, hein, donc il n'y a pas du tout la même échelle sociale, en tout cas pour l'atteinte du virus, puisqu'au contraire, des politiques, des mondains vont se trouver particulièrement vulnérables à la maladie. Hein, donc il y a évidemment cette vulnérabilité plus large, et puis surtout, on s'aperçoit que tout le monde est vulnérable en général. C'est-à-dire que chacun, et là c'est justement particulièrement les personnes favorisées, chacun est dépendant d'autrui donc pour sa vie. Et donc les puissants sont dépendants des soignants pour leur vie lorsqu'ils sont hospitalisés, mais tout le monde donc dans la société est dépendant, ben, par exemple des magasins, des caissières, des livreurs, etc. Et même de toute une masse de personnes qui travaillent en fait à ce que la société reste en état de fonctionnement. et qui sont invisibles et donc finalement qui compensent notre vulnérabilité qui est apparue à ce moment-là, mais qui eux-mêmes sont hyper vulnérables puisqu'ils s'exposent au virus ou à différents risques pour justement compenser notre vulnérabilité. Et c'est là que il y a vraiment cette réflexion, comme vous le dites, sur cette vulnérabilité qui est à la fois très générale, qui est celle de tout le monde, mais qui, au final, va quand même frapper certains beaucoup plus que d'autres.
Enfin, une dernière question, une dernière remarque, Sandra Laugier, dans un domaine que vous connaissez bien, que vous étudiez, le domaine du féminisme, par exemple. Il faut noter que les femmes dans cette crise, et je ne parle pas simplement du personnel hospitalier, des infirmières, des médecins, du personnel soignant en général, je pense aussi aux caissières, les femmes ont été et sont toujours en première ligne dans cette crise.
Alors, les femmes sont en effet vraiment les plus nombreuses dans les professions les plus exposées et celles qui, justement, nous aident à vivre. On le voit très clairement, bien sûr, dans les infirmières, les aides-soignantes, vous le disiez, mais aussi, bien sûr, donc les caissières, les personnels de nettoyage, etc. Donc c'est massivement en fait les femmes qui sont en première ligne, contrairement à ce que dit le président de la République qui dit que c'est les soignants en première ligne. C'est vrai aussi, mais en réalité, il y a vraiment des femmes qui sont en très grande majorité en première ligne. On sait très bien maintenant qu'on commence à avoir des enquêtes là-dessus, que y compris dans le confinement, et dans les foyers donc confinés, les femmes finalement prennent en charge aussi énormément de choses. Et plus généralement, c'est vrai que les femmes sont aussi plus vulnérables par rapport à la crise, aux conséquences économiques de cette crise, même si on a beaucoup insisté au début sur le fait que les hommes étaient majoritaires chez les victimes du virus, mais il faut bien aussi noter que les femmes sont très majoritaires dans les EHPAD aussi, donc il ne faut pas du tout minimiser le poids des femmes dans ces victimes de la crise, qui est quand même particulièrement étonnant, c'est à quel point les femmes par contre sont peu présentes dans les médias. Hein. C'est vrai qu'on entend beaucoup de médecins, mais vraiment les femmes, même si on les entend bien, hein, celles qu'on entend, elles sont quand même extrêmement minoritaires. Les femmes politiques aussi n'ont pas été très souvent entendues et très souvent elles sont l'objet de colibés, hein, justifiées ou pas. Donc il y a quand même, il me semble, là, une forme de fragilisation aussi de la position globale des femmes, hein, de leur position symbolique dans la société, même s'il y a une prise de conscience de tout ce qu'elles apportent. Donc on est quand même dans un moment d'ambiguïté. Et vous avez certainement remarqué que dans les milieux intellectuels, on entend énormément d'hommes. Il y a beaucoup de publications de textes signés par des hommes et beaucoup moins par des femmes.
Et c'est aussi pour cela que je voulais vous entendre aujourd'hui, Sandra Laugier. Nous nous retrouverons demain pour le magazine Idées, figurez-vous, et nous proposons une nouvelle diffusion du magazine que nous avons consacré ensemble à votre dernier livre sur les séries, Nos vies en série. C'est le titre de ce livre publié chez Flammarion et ça sera demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Merci Sandra Laugier.
Merci beaucoup.
Une semaine d'actualité réalisée par Steven Hesley. Bonne fin ou bon début de semaine. Prenez soin de vous en tout cas. Et dans un instant, un nouveau journal sur RFI. En sol majeur.